Simplement, je vais vous partager rapidement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Premièrement, je veux vous rappeler une chose que nous rappelons souvent. Nous ne montons jamais sur cette estrade sans être préparés. Parfois, cela nous prend 2, 3 jours ou 4 jours, même plus, de mise à part totale avant de monter sur cette estrade. Probablement la semaine qui a passé, le bureau a dû penser que j'ai passé toute la semaine en vacances. Eh bien non, je n'ai pas passé toute la semaine en vacances. J'ai passé toute la semaine à attendre la parole du Seigneur pour qu'elle vous soit donnée ce matin. Donc quand je vous parle, et quand nous vous parlons, et quand un orateur ou qui que ce soit vient vous donner la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de réchauffé, ce n'est pas quelque chose d'à moitié cuisiné, ce n'est pas un vieux message que nous allons retourner et rechercher dans nos greniers, c'est quelque chose qui vient du Seigneur pour maintenant. Et c'est pour vous avec votre nom inscrit dessus. Et j'aimerais que vous disiez Amen et Alléluia pour cela. Ce matin, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à vous qui êtes dans la salle des bébés. Hello. Je m'adresse à vous aussi qui êtes à la sono. Je m'adresse à tout le monde. À toutes les personnes qui sont là, à toutes les personnes qui écouteront sur cassette, sur vidéo ou autre chose. Je m'adresse à vous tous. Et ce matin, j'aimerais vous parler par l'Esprit de Dieu. Par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a dit, par rapport à certaines personnes ici. Et Dieu m'a parlé de 2 groupes de personnes. Il y en a peut-être plusieurs, mais Dieu m'a montré 2 groupes de personnes. Il y a des personnes, vous êtes ici et vous êtes là ce matin. Et il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est fort et qui brûle. Vous avez un réel désir pour le Seigneur. Vous avez un feu à l'intérieur de vous que le Saint-Esprit a ravivé. C'est comme une chaleur, c'est comme une brûlure. C'est quelque chose de très fort qui est à l'intérieur de vous. Vous voulez plus de Dieu dans votre vie. Vous voulez plus d'onction, plus de miracles, plus de paroles, plus de révélations. Vous voulez que Dieu entre dans votre chambre à coucher. Vous voulez qu'il vous visite lorsque vous priez. Vous attendez à quelque chose de la part du Seigneur. Vous avez un appétit insatiable. Vous avez faim et faim et faim. Et même lorsque l'on vous en donne, vous en avez encore envie. Vous en avez encore besoin. Parce que vous n'êtes pas facilement rassasié. Et voyez-vous, ce feu que Dieu a mis dans votre cœur vient du Saint-Esprit. C'est quelque chose que le Seigneur a mis dans votre cœur depuis quelque temps. Certains d'entre vous-même, c'est depuis ce mois-ci. Quelque part, le Saint-Esprit vous a touché. Il a déposé cela à l'intérieur de votre cœur. Si cela vous correspond, j'aimerais que vous leviez votre main, si c'est vous, et que vous disiez Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un 2e groupe de personnes. Vous connaissez Dieu, vous aimez Dieu. Vous savez que c'est important de suivre Dieu, mais c'est pas si primordial pour vous. Vous n'avez pas la même passion que vous aviez auparavant. Ce n'est pas aussi essentiel. Maintenant, vous savez que c'est important. Vous allez à l'église. Vous venez à l'église. Vous faites ce qui est nécessaire. Mais vous n'avez plus le même feu à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus la même passion à l'intérieur de vous. Quelque part sur le chemin, vous vous êtes octroyé une sieste. Une sieste spirituelle, mais une sieste, c'est dangereux. Parce qu'une sieste conduit au sommeil. Et le sommeil parfois conduit au coma. Et le coma conduit parfois à la mort. Et donc vous êtes dans un état, et je ne sais pas lequel, mais vous êtes dans un état parfois de sieste. Et cet état de sieste est en train pour certains de vous conduire dans un état de sommeil. Ou dans un état de coma. Mais le Seigneur a touché votre cœur. Le Seigneur vous a touché il n'y a pas longtemps de cela. Il y a quelque temps de cela, je ne sais pas quand. Et vous savez que c'est maintenant que vous devez réagir. Sinon le diable prendra l'avantage sur votre vie. Hello. Dieu vous a touché et vous savez que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Combien d'entre vous, vous savez que je parle de la part du Seigneur? Combien d'entre vous, vous savez que ça vient du Saint-Esprit? Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Je crois ici qu'il y a des gens qui sont candidats pour un réveil spirituel. Vous avez besoin d'un réveil personnel spirituel. Et mes amis, Dieu vous le donne. Dieu vous l'accorde. Et Dieu a commencé déjà une œuvre à l'intérieur de vous. Parce que ce feu que vous ressentez, ce zèle, cette passion qui revient en vous, vous n'allez pas la laisser filer. Vous n'allez pas la laisser glisser entre vos doigts. Voyez-vous, Dieu vient et Dieu nous rend visite. Et Dieu nous rend visite, vous savez, et à chaque fois qu'il nous rend visite, nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons estimer cela. Et voyez-vous, Dieu ne vient pas tous les quatre matins, mais il vient et il nous rend visite. Et quand il nous rend visite, nous devons prendre les choses au sérieux. Je vous ai dit il y a quelque temps de cela que le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a donné une parole et il m'a donné ce verset. Jésus quitta ça, quitta le lieu où il était et il descendit rendre visite à sa patrie. Je crois que Jésus vient rendre visite à sa patrie. Jésus vient rendre visite à son peuple. Alléluia. J'ai pas de retour. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, c'est très important de valoriser cela. C'est très important de le réaliser. Parce que, mes amis, Dieu veut que vous expérimentiez un réveil spirituel. C'est le moment et c'est le jour d'expérimenter un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, ce n'est pas un réveil spirituel collectif, c'est un réveil spirituel personnel. C'est entre vous et Dieu. Et Dieu libère dans votre cœur et dans votre vie un appétit nouveau pour les choses de Dieu. Vous allez avoir faim, ne vous jetez pas sur le plat de spaghettis, parce que c'est une faim spirituelle qui est à l'intérieur de vous, et ce ne sont que les choses spirituelles qui vont pouvoir vous rassasier. Hallelujah! Dieu a besoin de susciter un réveil spirituel dans votre cœur, un réveil spirituel dans votre vie, et j'aimerais vous donner 3 clés ce matin, très rapidement, si le temps me le permet, sinon 2 clés et ce soir une 3e. J'ai 3 choses importantes à vous partager. 3 clés dont vous avez besoin. 3 choses essentielles que vous devez réaliser. 3 niveaux que vous devez franchir. 3 barrières que vous devez surmonter. 3 frontières que vous devez, ou forteresses que vous devez écraser. Hallelujah! Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? La première chose que vous devez changer dans votre vie, pour expérimenter un réveil spirituel personnel, vous devez changer votre façon de prier. Est-ce que vous m'entendez ce matin? J'ai dit, vous devez changer votre façon de prier pour expérimenter un réveil. Et à chaque fois qu'il y a eu un réveil, les gens qui ont expérimenté un réveil, d'où que ce soit sur la surface de la terre, ils ont changé leur façon de prier. Si vous voulez un réveil, vous savez, il n'y a rien de drôle que d'être un chrétien et de marcher avec Jésus sans passion. C'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Parce que lorsque l'on marche avec Jésus, on est plein de passion. On est plein de zèle. On est rempli d'un feu dévorant. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que vous ayez. Dieu veut que vous soyez dans cet état de passion. Hallelujah. Parce que lorsque l'on est dans cet état de passion, on est en fait dans un état de réveil personnel. Lorsque l'on est en état de réveil personnel, on est en ébullition. Hallelujah. On a dépassé les 100 degrés. On fait des bubules. On est en ébullition. Comment avoir un réveil personnel? Premièrement, changer notre façon de prier. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a trop de gens, et on peut dire ensemble, il y en a marre et ça suffit. Il y a trop de gens qui suivent Jésus pour avoir la solution à leurs problèmes et pour avoir la réponse à leurs besoins. Et c'est pas de cette façon-là qu'on expérimente un réveil personnel. On peut pas être réveillé pour Dieu, on peut pas être en ébullition lorsque la seule raison pour laquelle on suit Jésus, c'est parce que l'on a besoin, c'est parce que l'on veut des solutions, c'est parce que l'on veut des réponses. Bien sûr que Jésus est venu apporter des réponses. Bien sûr que Jésus est venu pourvoir aux besoins du monde. C'est pourquoi qu'il est mort, c'est pour cette raison qu'il est mort à la croix. Mais c'est pas pour cela qu'on le suit. Et moi, je dis, il y a trop de gens. Et nous devons faire attention de ne pas glisser. De ne pas glisser dans cette attitude. De ne suivre Christ que pour nos besoins. De ne suivre Christ que pour nos solutions. Que pour nos réponses. Il y a trop de gens qui suivent Jésus pour avoir des solutions à leurs problèmes, une réponse à leurs besoins. Ils ont des besoins. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est la réponse. Peu importe d'où elles viennent, peu importe comment elles viennent, peu importe de par qui elles viennent, pourvu qu'ils aient leur réponse. Mais avec une attitude de cœur comme cela, nous n'irons nulle part spirituellement. Nous n'expérimenterons jamais un réveil personnel. Jésus était entouré de foules. Les foules le suivaient. Pensez que lorsqu'il a nourri 5000 hommes, ça veut dire qu'il était entouré d'une foule de minimum 20 000 personnes. Lorsque Jésus se déplaçait, il pouvait avoir 20 000, 30 000 personnes qui le suivaient. Voilà pourquoi les gouvernements vraiment avaient l'oreille attentive. Ils se posaient des questions. Tous les religieux, parce que Jésus drainait de telles foules. Mais dans ces foules, il y avait les curieux. Il y avait les gens qui voulaient voir des miracles. Il y avait les gens qui se demandaient, mais qui c'est ce Jésus? Il y avait les gens qui se posaient des questions, qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Il y avait les curieux, il y avait les incrédules. Il y avait les gens qui le suivaient de tout leur cœur. Il y avait les gens qui voulaient le servir, qui voulaient apprendre de lui, qui comprenaient qu'il était le Fils de Dieu. Puis il y avait les gens qui avaient des besoins. Il y avait tous ces gens qui le suivaient parce qu'ils avaient des besoins. Pas tellement qu'ils l'aimaient, mais ils avaient des besoins. Et la seule chose sur laquelle ils étaient concentrés, c'était sur leurs besoins. Et Jésus les a nourris. Jésus leur a donné pain et poisson. Et si, je n'ai pas pris la référence, mais si vous regardez dans la Bible, il est dit à un moment qu'après qu'il ait nourri la foule, le lendemain, il voit cette foule qui le suit encore. Et il se tourne et il dit, vous me suivez parce qu'hier je vous ai nourri. Mais qu'est-ce que veut dire cette petite phrase? Cette petite phrase veut dire, il disait à cette foule, il ne la jugeait pas, il ne la condamnait pas, il ne la lapidait pas, mais il leur disait, la raison pour laquelle vous me suivez, c'est parce qu'hier je vous ai donné du pain. Vous me suivez parce que je vous ai nourri. Vous me suivez parce que j'ai rempli vos estomacs. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous suivons Christ. Ce n'est pas pour cette raison que nous adorons Christ. Nous devons changer notre façon de prier. Alléluia. La louange et l'adoration, la reconnaissance et la gratitude doivent venir au-dessus et avant toute autre chose. Mes amis, nous devons construire un trône de louange à l'Éternel. Je n'aurais pas commencé ce message ce matin tant que la congrégation n'avait pas loué. Et voyez-vous, c'est sur les deux derniers chants, à 11h45, que vous avez commencé à louer le Seigneur. C'est pourquoi vous m'avez fait commencer tard. Mais je ne serais pas passé à la parole de Dieu si nous n'avons pas commencé à louer. Parce que comprenez que dans ces jours, Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau. Il veut bâtir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il veut bâtir quelque chose de nouveau, mais pas dans l'église, pas ici, lorsque nous nous rassemblons. Il veut bâtir quelque chose de nouveau lorsque vous êtes dans votre maison, lorsque vous êtes dans votre chambre à coucher, lorsque vous entrez dans votre maison, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre voiture. Il veut que quelque chose de nouveau se passe. Dieu s'attend. Alléluia. Dieu s'attend aux grandes choses de l'esprit libérées dans votre cœur et dans votre vie. Il y a des choses qui sont en préparation pour vous. Il y a des paquets avec votre nom dessus. Il y a des choses spirituelles qui sont en préparation et que vous n'aurez que lorsque vous serez affamé de Dieu. Que vous n'aurez que lorsque vous serez rentré dans votre chambre de prière avec un nouveau manteau de louange et d'adoration qui dira « Je louerai mon Dieu coûte que coûte. Je ne le loue pas pour mes besoins, je le loue parce qu'il est mon Dieu. Je ne l'exalte pas parce que j'ai besoin ou de réponse, parce que j'ai besoin de miracles. Je l'exalte parce qu'il est mon Seigneur. » Il est temps de changer notre façon de prier. Arrêtez de demander à Dieu, commencez à le louer. J'ai dit arrêtez de demander à Dieu, commencez à le louer. J'ai dit arrêtez de demander à Dieu, commencez à le louer. Laissez de côté votre liste de prières. Laissez de côté vos besoins et vos points. Commencez à le louer. Commencez à rechercher sa face. Commencez à rechercher son cœur. Commencez à lui parler. Commencez à lui dire des merveilles. Commencez à lui dire que vous l'aimez. Vous êtes venu ce matin. Mais est-ce que vous lui avez dit que vous l'aimez? Est-ce que vous lui avez dit qu'il était votre trésor? Est-ce que vous lui avez dit personnellement? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous êtes allé comme cette femme qui est tombée aux pieds de Jésus? Est-ce qu'elle a demandé quelque chose au Seigneur? Est-ce qu'elle lui a demandé un miracle? Est-ce qu'elle lui a demandé une guérison? Est-ce que lui a demandé une provision? Elle est venue aux pieds de Jésus. Elle a pleuré sur ses pieds. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'était? Est-ce que c'était une folle? Les gens pensaient c'est une folle, mais qui est cette femme pour faire cela à Jésus? Elle était en train de l'adorer, elle ne lui demandait rien en échange. Elle l'adorait parce qu'elle reconnaissait qu'il était le chemin, la vérité et la vie, qu'il était la seule porte vers le ciel, qu'il était le seul capable à remplir nos âmes et nos cœurs. Elle l'adorait parce qu'elle reconnaissait qui il était. Cette femme qui est venue et qui l'a adorée ne lui a rien demandé. C'est une exception dans la Bible. Elle ne lui a rien demandé. Elle n'était pas aveugle, elle n'était pas impotente, elle n'était pas infirme. Elle était en bonne santé. Mais mes amis, elle est tombée à ses pieds. Avec ses larmes, elle lui a lavé les pieds. Avec ses cheveux, elle lui a essuyé. C'était de l'adoration. C'était de l'adoration. Mes amis, nous devons bâtir un trône d'adoration à Dieu dans nos vies. Nous devons bâtir un trône d'adoration à Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'adoration. Il y a tellement de prodiges qui se passent dans l'adoration qui fait que nous n'avons plus besoin de demander à Dieu. Lorsque nous commençons à l'adorer, sa provision et tout ce dont nous avons besoin vient automatiquement. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et absolument, complètement, totalement, toute espèce d'autre chose vous seront données par-dessus, gratuitement, sans les avoir cherchées. Parce que la Bible dit que ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui les cherchent. Mais nous qui sommes ses enfants, nous avons une alliance, nous avons un contrat avec Dieu. Cette alliance nous pourvoit de tout ce dont nous avons besoin. Et ces choses, nous n'avons donc plus besoin de les rechercher. La seule chose que nous avons besoin de rechercher, c'est de rechercher sa face. C'est de rechercher son cœur. C'est de chercher à lui plaire. C'est de chercher à le servir. C'est de chercher à l'aimer mieux et davantage. Mes amis, lorsque vous faites cela, vous expérimentez un réveil spirituel. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous expérimentez un réveil spirituel. Arrêtons de demander à Dieu, commençons à le louer. Josaphat a été un grand roi. Il était un roi qui connaissait l'Éternel. La Bible dit qu'à un moment donné, sans qu'il ne sache, sans qu'il n'ait eu aucun indice, trois rois se sont liés contre lui. Le pays de Moab, le pays des Maonites. Et ils sont venus contre lui. Ils se sont assemblés. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20, prenez simplement la référence, qu'il a été cerné par une multitude. Et la Bible dit, ce n'était pas simplement une multitude, c'était une multitude nombreuse. Parmi le peuple de Josaphat, il n'y avait pas d'hommes entraînés. Il n'y avait pas d'hommes de guerre. Il n'y avait pas de gens pour le combat. Lorsque la nouvelle est venue vers Josaphat, son cœur s'est presque arrêté. Il a été frappé par la peur. Il a été frappé par l'angoisse. Il a été saisi. Saisi de crainte, saisi de frayeur. Et parfois dans nos vies, nous entendons des nouvelles où nous sommes saisis de frayeur. Et qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat, la Bible dit, qu'il a rassemblé tout le peuple. Ils sont tous montés au temple de l'Éternel. Ils sont tous montés au temple de Salomon. Parce qu'il savait que Salomon avait prié cette prière. Seigneur, quand ton peuple criera, quand ton peuple invoquera ton nom dans ce lieu, Seigneur, que tes oreilles soient ouvertes à leurs cris. Réponds à leurs prières. Ils se sont tous assemblés. Et Josaphat est parti dans une grande prière. Il a levé ses mains. Tout le monde priait. Tout le monde priait parce qu'il y avait un besoin. Tout le monde montait au temple de l'Éternel parce qu'il y avait un besoin. Alors là, tout le monde était là. Alors là, tout le monde priait. Parce que bientôt, on allait voir une foule sur les montagnes. On allait voir des chars et des chevaux. Et il était impossible de faire face naturellement à cette foule. Alors ils ont prié. Et Josaphat a fait une très belle prière. Mais voyez-vous, la percée n'est pas venue de la prière. Il a prié Dieu des cieux. Oh, toi qui as créé le ciel et la terre, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'es-tu pas celui qui règne? N'es-tu pas celui qui est puissant? Il était en train d'invoquer Dieu. Il disait, hey, Seigneur, n'es-tu pas celui qui est responsable de toutes choses, là? C'est pas toi, au fait, qui est en charge de nos vies? Seigneur, c'est pas toi qui t'occupe de nous? C'est pas toi qui est censé nous protéger? Il était en train de prier. Et mes amis, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est tombé. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas tombé sur cette prière. L'Esprit de Dieu est tombé sur le chef des Lévites, un fils d'Azaph, qui est venu et qui s'est avancé, qui a dit « La délivrance ne viendra pas comme cela. Louons l'Éternel. Commençons à célébrer son nom. » Et le cœur de Josaphat a été touché par cette parole. Le cœur de Josaphat a été saisi. Il a su que cela venait du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les chantres, il a pris tous les lévites. Tout le monde est parti à la bataille, mes amis. Il a mis les chantres et les lévites devant. Il a dit, maintenant, louons l'Éternel. Mes amis, lorsque vous avez des combats, arrêtez de pleurer. Dieu n'a pas fait de vous un mendiant. Hein? Dieu n'a pas fait de vous un mendiant. Seigneur, donne-moi une bénédiction. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, entends-moi. Dieu n'a pas fait de vous un mendiant. Il a fait de vous un fils et une fille de son royaume. Il a fait de vous des fils et des fils de Dieu. Des fils et des filles de roi. Il n'a pas fait de vous un mendiant. Vous n'êtes pas là à mendier, à quémander Dieu pour une bénédiction, pour une solution. Vous êtes nés pour le louer. Ça nous rappelle quelque chose. Il y a un chant qu'on chante, n'est-ce pas? Je suis né pour te louer. Vous êtes nés pour le louer. Vous n'êtes pas nés pour quémander. Vous n'êtes pas nés pour picorer au sol. Vous êtes nés pour voler haut. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes nés pour voler haut. Il faut arrêter cette mentalité de mendiant qui ne vous amènera aucun réveil spirituel. Je vous dis, le réveil spirituel vient lorsque l'on connaît la parole de Dieu et qu'on la met en pratique. Excusez-moi de vous dire des choses si banales. Excusez-moi de vous dire des choses si évidentes. Excusez-moi de vous rappeler des choses si que nous connaissons depuis si longtemps. Mais le réveil spirituel vient lorsque je dis, voilà ce que me dit ma Bible. Ma Bible dit, loue l'Éternel, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce que me dit ma Bible. Et elle me dit après que toutes choses me seront données par-dessus. Dieu l'a dit, je le crois, je le fais. Si Dieu l'a dit, c'est son problème. Moi je dis souvent au Seigneur, c'est ton problème. Mon problème à moi, et ma part à moi, je la connais. Ma part à moi, c'est de te louer. Ma part à moi, c'est de te remercier. Ma part à moi, c'est de croire. Ma part à moi, c'est d'avoir confiance en toi. C'est pas de m'inquiéter, c'est pas de savoir par quel endroit et de quelle façon et comment les choses vont arriver. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est absolument pas mon problème. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Ma part à moi, c'est de lever les mains vers l'Éternel. C'est de dire, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est bien plus fort, mon Dieu peut le faire, mon Dieu va le faire, mon Dieu ne change pas, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bien capable de changer, de transformer les situations, de renverser mes montagnes, de bouleverser toutes choses. Mon Dieu est bien capable. Ça, c'est ma part. Ça, c'est ma part. Le reste, c'est sa part. Ma part, c'est de rentrer dans ma chambre et de ne pas m'agenouiller par terre en pleurant comme une lavette, comme un ver sans force. Oh, Seigneur. Non, ma part, c'est de rester digne dans la présence de Dieu. C'est d'avoir confiance en mon Dieu. Dieu ne m'a pas appelé à ramper par terre. Il m'a appelé à marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, absolument rien ne me fera de mal. Ma part à moi, c'est de me lever. Ma part à moi, c'est de marcher. Ma part à moi, c'est de croire. Combien d'entre vous voulez un réveil spirituel? Un réveil personnel? Mes amis, il y a un feu qui doit brûler. Il y a quelque chose qui doit consumer là. Il y a un feu, il y a un feu. Je vous dis, il y a un feu qui est libéré. Vous l'avez déjà ressenti, même cette semaine. Certains d'entre vous, vous faites des choses nouvelles que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous avez commencé à prier différemment. Je ne sais pas qui, mais je vous parle par l'esprit. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes réveillés la nuit, alors que vous n'étiez pas réveillés la nuit. Vous vous levez tôt le matin alors que vous n'aviez pas l'habitude de vous lever tôt le matin. Vous avancez vers Dieu. Vous avez une faim, une soif. Il y a quelque chose qui brûle en vous. C'est le début d'un réveil spirituel. Mais un réveil spirituel, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez mettre de l'eau dessus. Vous pouvez l'étouffer. Vous pouvez mettre du sable. Ou vous pouvez le laisser brûler à l'intérieur de vous. Mais je vous dis une chose. Si vous voulez que le réveil brûle à l'intérieur de vous, il va brûler. Il va vous consumer. Il va vous purifier. Il va vous laver. Il va vous changer. Et il va faire de vous quelqu'un de puissant. Il va faire de vous quelqu'un de fort. Il va faire quelqu'un de vous de nettoyé, de propre. Il va faire de vous quelqu'un de nouveau. Mais vous êtes à un moment crucial. Lorsque le feu vient de démarrer, lorsque je démarre un feu dans ma cheminée, et j'ai l'habitude, depuis que je suis très très jeune, de faire du feu. J'aime énormément faire du feu et je sais comment démarrer le feu. Je sais aussi que si je ne veille pas sur le feu, il peut s'éteindre dans les quelques minutes dans lesquelles il vient d'être démarré. Vous devez faire très attention. Le Seigneur vous a béni, le Seigneur vous a parlé, notamment ces dernières semaines. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il y a un feu que Dieu a déposé dans votre cœur. Ça a été gratuit, c'est donné. C'est sans effort que vous l'avez reçu. Maintenant, ce feu, vous devez le cultiver. Vous devez le laisser brûler. Lorsque le Saint-Esprit vous réveille à 3h du matin, levez-vous, allez prier. Lorsque le Saint-Esprit vous réveille, lorsque le Saint-Esprit vous conduit dans la parole, commencez à lire, commencez à étudier. Ayez une faim, une passion de Dieu. Hallelujah. Vous voulez expérimenter un réveil spirituel? Commencez à changer votre façon de prier. Josaphat a mis tous les lévites, tous les chantres devant lui. Ils se sont avancés. Ils ont avancé dans la louange et dans l'adoration. Ils ont adoré Dieu. Ils sont partis au combat avec des louanges dans leur bouche. La Bible dit qu'ils n'ont pas eu besoin même de lever le petit doigt. Ils n'ont pas eu besoin de se battre. Les ennemis se sont dévorés les uns les autres. Ils se sont tous battus. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés devant une plaine avec une multitude d'hommes au combat qui étaient tous à terre. Ils s'étaient tous tués les uns les autres. Ils ont pris le butin. Ils ont pris un butin immense. Mais voyez-vous, qu'est-ce que cela veut dire cela? C'est ce que fait la louange et l'adoration dans notre vie. Lorsque plutôt que de demander, vous commencez à louer, vous rendez les choses tellement plus faciles pour vous. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de faire venir les bénédictions sur vous, sur votre vie. Il n'y aura pas de difficultés. Ce sera facile. Vous créez un chemin pour Dieu. Vous créez un accès pour Dieu. Vous créez un accès pour l'Esprit de Dieu. Et mes amis, nous devons laisser un accès à l'Esprit de Dieu dans nos vies. La louange et l'adoration, c'est un accès par lequel le Saint-Esprit vient. Il descend. Il nous amène ce dont nous avons besoin. Vous avez des problèmes ? Est-ce que vous avez des problèmes? Si vous avez des problèmes, s'il y a des soucis, si on vous a dit non, si on vous a dit ce n'est pas possible, si vous avez un rapport négatif, terminal, commencez à louer Dieu. Oh, vous ne m'entendez pas ce matin. Commencez à louer Dieu, parce que vous aurez la victoire. Je me souviens la première fois où j'ai fait cela. J'ai souvent raconté l'histoire de mon bac, bien que lorsque l'on est adulte et qu'on regarde le bac, ça ne nous semble pas aussi important que cela, n'est-ce pas? Mais lorsque l'on est jeune et que l'on passe par le bac, oh, ça nous semble être une montagne. Lorsque l'on passe par nos examens, j'ai souvent raconté que cette année de mon bac n'était pas la plus glorieuse de ma vie. Je n'avais pas travaillé. Et pendant toute l'année, j'avais laissé tous ces cours et toutes ces notes, particulièrement d'histoire et géographie, où le programme est tellement complet, tellement plein. J'avais laissé toutes les notes de côté, je n'avais absolument rien appris. Et j'avais espéré en fait que 2 ou 3 mois après le bac, j'allais évidemment m'enfermer dans ma chambre. Et là, j'allais apprendre, évidemment rien, absolument rien. Vous savez ce que c'est quand vous remettez toujours à l'endemain, demain. Puis vous arrivez devant les examens, vous savez rien. Moi, je suis arrivée devant mes examens du bac, je ne savais rien. Je ne connaissais pas mon programme d'histoire et de géographie. Et mes amis, j'avais des classeurs comme ça de notes. Ah, j'avais pris des notes. J'en avais pris des notes, mais je ne les avais pas apprises. Je ne connaissais rien. Je me souviens. Ah, combien la peur avait grippé mon cœur. Mais je me souviens aussi que j'avais décidé de mettre ma confiance en Dieu. Maintenant, je vous raconte pas toute l'histoire parce que vous la connaissez. Je savais pas que Dieu avait un plan pour moi et que c'était très important que je ne perde pas du temps. Et donc, j'avais demandé à Dieu de me donner mes examens. Et je me souviens la veille de mes examens. De toute façon, au bout d'un moment, vous savez, vous arrivez à la veille des examens, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Vous n'allez pas arriver le soir et puis tourner toutes les pages à toute vitesse en se disant, oh oui, je vais me rappeler de ceci, oh non, je vais me rappeler de cela. Entre guillemets, foutu pour foutu. Et je me souviens, là, ce soir-là, ma mère m'avait dit, écoute, viens, je t'amène manger au restaurant, on va partir manger au restaurant chinois. On était partis manger au restaurant chinois, genre, pour se détendre. Et donc, après avoir mangé, etc., nous étions rentrés dans la voiture, et nous avions à peu près une trentaine de kilomètres à faire pour rentrer à la maison, et nous avons commencé à louer Dieu ensemble. Ma mère et moi, dans la voiture, notre voiture était devenue un sanctuaire. Vous savez, vous pouvez faire de votre voiture un sanctuaire. Et je vous le recommande vivement, un sanctuaire de louange et d'adoration. Lorsque les gens vous voient au feu rouge, ils vous disent, mais il est bizarre celui-là. Hallelujah! Vous êtes en train de louer le Seigneur. Comprenez cela? Et donc, nous avons commencé à louer Dieu. Et je me souviens, et je me souviendrai toujours, il n'y avait pas de pluie. C'était un soir, il y a un arc-en-ciel qui est venu dans le ciel. N'oubliez jamais, lorsque vous voyez un arc-en-ciel, c'est Dieu qui a fait alliance avec les hommes. C'est Dieu qui a fait alliance avec vous. Bien souvent, lorsque vous voyez un arc-en-ciel, ce n'est pas un hasard. Dieu vous parle, Dieu vous montre un signe dans le ciel. J'ai fait alliance avec toi, je suis avec toi, je ne te quitte pas. Oh, nous avons vu un arc-en-ciel dans le ciel, il était si immense. Il nous a accompagnés sur 30 kilomètres jusqu'à ce que je rentre à la maison. Oh, lorsque je suis rentrée à la maison, mes amis, oh, je n'ai pas ouvert mes livres, je n'ai pas ouvert mes cahiers, j'ai jeté mes chaussures. Hein? J'ai jeté mes chaussures dans un coin et j'ai commencé à danser comme j'ai jamais dansé devant le Seigneur. J'ai commencé à louer Dieu. Je me rappelle, j'ai commencé sur ce chant, ce vieux chant, quand l'Esprit de Dieu agit en moi. Je chante comme David, je loue comme David, je danse comme David. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé jusqu'à ce que j'ai plus de voix, jusqu'à ce que j'ai plus de pieds. Mes amis, ma victoire était acquise. C'est dans votre chambre que vous avez votre victoire. C'est pas en vous agenouillant au lit, en pleurant, en disant à Dieu, Seigneur, vois ma condition, vois mes problèmes. C'est lorsque vous levez dans la foi, vous faites partir les chaussures à droite, partir les chaussures à gauche, et vous dites, maintenant, c'est mon temps de louer Dieu, c'est mon temps de libérer le surnaturel, c'est mon temps d'être puissant, c'est mon temps de mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? À chaque fois que j'ai lu au Dieu, plutôt que de demander ou commander, j'ai eu toujours de grandes victoires. Hallelujah. Tournez avec moi dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, nous avons l'histoire ici de la femme cananéenne. Très rapidement. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, donc il est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il n'est pas dans le pays d'Israël. Okay? Il n'est pas dans le pays de l'Alliance. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Elle vient de Tyr et de Sidon. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez-moi, nous voyons ici une des histoires les plus étranges de la Bible. Une des histoires les plus incroyables de la Bible. Nous voyons un Jésus que nous ne reconnaissons pas. Dans les lignes que je vais vous lire, vous allez voir un Jésus, un Christ, que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et je vais vous expliquer pourquoi. « Aie pitié de moi, cria-t-elle. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Voici une histoire étrange. Est-ce que vous êtes capable de comprendre pourquoi cette histoire est différente de toutes les autres histoires de la Bible? C'est la seule personne à qui Jésus a parlé de cette façon-là. L'aveugle est venu voir Jésus. Bartimée a crié. Il a crié « Fils de David !» Les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets, les lépreux, tous ont eu un accès vers Jésus. Et Jésus les a tous accueillis. Cette femme-là vient vers Jésus. Elle crie son besoin. Elle hurle son besoin. La Bible dit que Jésus ne lui répond pas un mot. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez pourquoi. Cette femme-là, son problème, c'est que sa fille est cruellement tourmentée par le diable. Nous avons tous des besoins. Et des besoins dans le monde, des gens tourmentés par le diable, des gens qui manquent d'argent, des gens qui sont malades, il y en a plein les rues. Jésus a dit, vous avez les pauvres avec vous pour toujours. Vous suivez-moi. Les problèmes, il y en aura toujours. Des gens pauvres sur cette terre, hélas, il y en aura toujours. Des gens malades, il y en aura toujours. En d'autres termes, des besoins, il y en aura toujours. Il y en aura toujours dans le monde, il y en aura toujours dans nos vies. Jésus n'est pas ébranlé par les besoins. Dieu n'est pas touché, ébranlé, ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des besoins. Il y en a partout des besoins. Voilà une femme qui vient vers Jésus. Elle vient de Tyr et de Sidon. Ce n'est pas une fille d'Israël. Ce n'est pas une fille de l'Alliance. C'est une païenne qui a l'habitude d'adorer des idoles, de vivre dans le péché. Rappelez-vous que Tyr et Sidon, ce sont des contrées, et notamment comme toutes les autres contrées païennes, qui avaient l'habitude de combattre le peuple de Dieu. Combattre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne se soumettait pas aux lois de l'Éternel. Cette femme-là vient, telle qu'elle est, avec sa vie, son histoire, son passé, et elle vient vers Jésus avec son besoin. Elle ne vient pas vers Jésus avec son adoration, avec sa reconnaissance, avec la foi qu'il peut faire quelque chose. Elle vient vers Jésus comme elle viendrait vers n'importe qui pour avoir la solution à son problème. Et moi je dis, ras-le-bol. Moi je dis, y en a marre. Il y en a marre des gens qui servent ou qui suivent Dieu, plutôt qui suivent Jésus, ou qui vont à l'église, ou qui vont à la prière, simplement pour avoir la réponse à leurs besoins. C'est comme si vous viviez avec 10% de vos capacités. C'est comme si vous utilisiez une infime capacité de votre connaissance de Dieu. C'est comme si vous étiez vide. Cette femme-là vient vers Jésus avec rien d'autre que son besoin. La Bible dit dans un autre passage que Jésus était entré dans une maison pour se reposer. Elle est entrée dans cette maison en criant, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais voyez-vous, la raison pour laquelle Jésus lui a parlé de cette façon-là, c'est parce qu'elle est venue avec un différent cœur et une attitude différente de tous les autres qu'il a rencontrés. Elle est venue avec son besoin et la seule chose qui comptait, c'était son besoin. Elle était incapable de voir la gloire de Dieu. Elle était incapable de donner la louange à Dieu. Elle était incapable de reconnaître qui était Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce que Jésus fait lorsque nous venons vers Dieu simplement pour avoir la réponse à nos besoins? Et lorsque nous avons la réponse à nos besoins, Dieu sait très bien que nous allons dire bye-bye. Dieu n'est pas bête, hein. Il y a des choses, Dieu vous les a pas données parce qu'il n'est pas bête, hein. Il n'est pas fou. Il sait que le jour où vous allez la voir, vous allez disparaître. Hein? Il le sait. Il n'est pas fou, hein. Il attend qu'il y ait un changement dans votre cœur et dans votre vie pour vous donner ce dont vous avez besoin. Il ne dit pas que vous n'en avez pas besoin. Il sait que vous en avez besoin. Mais tant que le cœur n'est pas en règle, tant que le cœur n'est pas droit, oh Seigneur bénis-moi, oh Seigneur donne-moi des millions, oh Seigneur donne-moi une prospérité, oh Seigneur donne-moi ceci, oh donne-moi une entreprise. Ah, donne-moi une entreprise. Tiens donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras l'entreprise? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 1 million dans ta poche? Hein? Parce que tu suis Dieu pour le besoin, alors que Dieu veut que tu le suives pour le louer, que tu le suives pour l'adorer, que tu le suives pour l'aimer. Que tu aies la passion à l'intérieur de toi, que tu aies le réveil à l'intérieur de toi. Cette femme, elle était désespérée. Mais la Bible dit que Jésus ne répondit rien. Premièrement, Jésus ne lui a même pas adressé la parole. Mais voyez-vous, lorsque vous venez vers Dieu, juste avec votre besoin, sans reconnaître qui il est, sans le louer, sans l'adorer, Dieu ne vous répond même pas. Vous avez déjà demandé à Dieu des choses et puis vous vous étonnez parce que vous n'avez pas de réponse. Vérifiez votre cœur, vérifiez vos mobiles, n'est-ce pas? Il ne lui répondit rien. En plus de cela, les disciples étaient agacés. Vous savez, les disciples, ils n'étaient pas toujours spirituels. Hein. Ils étaient agacés et ils disaient, Seigneur, elle crie dans nos oreilles, hein. Fais-la dégarpir un peu. Et elle entend cela. Mais elle continue. Vous savez pourquoi elle continue? Parce que la seule chose qui compte, il faut qu'elle trouve une réponse à son besoin. Alors Jésus lui répond. On se dit, gloire à Dieu. Ça y est, il lui ouvre la bouche. Ça y est, il lui répond quelque chose. Il lui répond pour lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui répond pour lui dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que vous voyez ce que cela veut dire? Il est en train de redresser cette femme. Il est en train de l'enseigner à la méthode dure. Il est en train de lui dire, vous savez, on ne manipule pas Dieu. On manipule pas Dieu. On ne fait pas infléchir Dieu comme on veut. On ne le fait pas rentrer dans nos petits programmes. On n'amène pas Dieu à notre dimension. Soit on monte à sa dimension, mais Dieu ne descendra pas à notre dimension. Est-ce que vous comprenez cela? Cette femme-là, elle voulait tirer Jésus et lui, il était hors de question. Soit elle montait dans la louange, soit elle reconnaissait qu'il était le Fils de Dieu, soit elle ouvrait ses yeux spirituels, soit elle changeait son cœur, soit rien du tout. Et lorsque son cœur a été changé, parce qu'il lui a dit, il lui a parlé des petits chiens, il ne la traitait pas de chien. Il ne disait pas qu'elle était un chien, elle disait qu'elle vivait comme les chiens. C'est-à-dire comme les païens, qui ne reconnaissent pas Dieu. Et elle a accepté, elle a compris cette parole. Et elle a dit, oui mais Seigneur, les chiens, les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il y a eu en elle une prise de conscience. À n'importe qui vous dites, chien, qu'est-ce que vous croyez que les gens, comment vous croyez que les gens vous répondent? Non mais, pour qui tu te prends toi pour m'appeler comme cela? Elle n'a même pas répondu, elle ne s'est pas rebellée contre ce qu'il a dit. Lorsqu'il lui a parlé, elle a compris. Et parce qu'elle a compris, elle a eu son miracle. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons changer notre façon de prier. Nous ne pouvons pas venir à Dieu en disant, oh Seigneur, bénis-moi et fais toute espèce de choses pour moi. Et vous voyez, en courant simplement après nos besoins. Je vais vous dire une chose. Rapidement. Souvent, le dimanche matin, après la réunion, je descends les marches, je jette un coup d'œil et je regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de me voir, qui a besoin de me saluer, qui a besoin de me dire quelque chose? Si je suis trop fatiguée, je vais direct au bureau. Certains d'entre vous avez déjà remarqué cela. Mais si ça va, je vais regarder à droite, à gauche, voir s'il y a quelqu'un qui... Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui viennent avec leurs besoins, qui viennent me parler de situations incroyables. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis là, je suis sur le devant. Des personnes viennent me voir en me disant, vous savez, j'ai une situation terrible dans ma vie. J'ai ma tante, par exemple, ma mère, mon père, qui est au pays ou qui est quelque part, etc., qui est dans cette condition. C'est terrible. Il faut vraiment que Dieu fasse quelque chose. Et donc, je donne un exemple, mais je pourrais en donner toute espèce. Donc les gens viennent avec vraiment quelque chose de sérieux qu'ils ont dans leur cœur. Ils me disent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Moi, je crois que l'onction de Dieu est dans la réunion. Vous comprenez? Donc, lorsque les personnes me demandent cela, puisqu'ils n'ont pas mis une requête de prière, puisqu'on n'a pas prié pendant la réunion, je leur dis, est-ce que vous pouvez revenir le soir? Et les gens qui viennent avec leurs si gros problèmes, lorsque je leur dis, est-ce que vous pouvez revenir le soir, me disent, ce soir, ce n'est pas possible. Non, mais je ne peux pas, j'ai des choses à faire. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans la balance? Qu'est-ce qu'on met dans la balance, hein? Vous pensez que moi, je vais m'occuper de votre besoin? Je vais prier, je vais m'agenouiller, je vais jeûner, lorsque vous ne pouvez même pas faire l'effort de revenir le soir pour qu'on prie pour votre besoin. Vous êtes en train de rêver là. Je reste polie, parce que j'ai été éduquée pour être polie. Mais j'ai envie de vous sauter sur le cou. Et de vous dire, votre besoin, vous allez le garder, et encore le garder, et encore le garder, parce que c'est sûrement pas de cette façon que Dieu va agir. qu'est-ce que vous mettez dans la balance? Vous venez d'un côté, vous me parlez qu'il y a une personne qui est en train de mourir dans votre famille, qui a une situation désespérée. De l'autre côté, moi je vous dis, est-ce que vous pouvez revenir à la réunion ce soir pour qu'on prie pour vous? Et vous êtes occupé. Excusez-moi. Non, au moins que je le dise une fois dans ma vie, quoi. Au moins que ça sorte une fois. Vous réalisez, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est là pour fixer tous vos problèmes? Hein? Moi, je vous parle d'avoir un réveil spirituel personnel. Je dis qu'il y a des choses qui doivent changer. Je dis que votre façon de prier doit changer. Je dis que vous devez commencer à bâtir un trône de louange et d'adoration pour Dieu. Votre vie doit être une louange pour le Seigneur. Alléluia! Devenez des adorateurs. Levez-vous tôt le matin. Adorez Dieu. Levez-vous dans la nuit, lorsque le Saint-Esprit vous réveille. Vous savez, dans la nuit, moi souvent je suis réveillée à 3 ou 4 heures du matin. Je me glisse hors de mon lit comme une souris. Toute la maison est endormie. Je descends tranquillement dans mon salon. J'allume une lumière. Et là, je sais, il n'y a personne autour de moi. Oh, gloire à Dieu, il n'y a aucun téléphone qui va sonner. Il n'y a pas de e-mail qui vont arriver. Il n'y a absolument personne qui va me demander rien. Et j'aime ça. Parce que vous savez quoi? C'est pas souvent. La vie nous attrape et nous tire de tous les côtés. Il y a des besoins de tous les côtés. Là, je sais que je suis toute seule. Et là, toute seule dans mon salon, à 3 heures ou à 4 heures du matin, je commence à louer le Seigneur. Ça peut durer un quart d'heure, parfois une demi-heure ou plus. Et après, je vais me reglisser sous mes draps. Mais vous savez quoi? J'ai eu mon moment avec Dieu, toute seule, où j'ai simplement chanté ma louange au Seigneur. Je lui ai apporté ma gratitude dans un moment de silence et de tranquillité où j'ai communié avec mon Dieu. Vous voulez un réveil spirituel? Changez votre façon de prier. Changez votre façon de prier. Il y a des choses qui doivent changer dans votre vie. Alléluia. J'ai 2 autres points à vous partager. Si vous voulez avoir un réveil spirituel, premièrement, vous devez changer votre façon de prier. Deuxièmement, vous devez changer votre façon de donner. Oh, le prophète Bernard est venu, mes amis. Nous n'avons pas eu besoin de prendre une offrande. Il a dit, je prends les offrandes. Il s'est occupé de prendre les offrandes. Et il a parlé. Il a parlé. Lorsqu'il a parlé, personne ne s'est senti torturé. Hein? Personne ne s'est senti sous pression. Parce qu'il a parlé de la part du Seigneur. Et moi, je dis, si vous voulez avoir un réveil spirituel, vous devez changer votre façon de donner à Dieu. Mes amis, vous devez changer votre façon de donner à Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter dans votre vie. Vous savez, moi je suis française. Hein? J'ai été éduquée à la française. Si certaines personnes, peut-être de certaines parties de ma famille, me voyaient sur une estrade, en train de parler à des gens et de leur dire « Donnez !» ils penseraient que je suis anathème. Ils penseraient que je suis une hérésie dans la famille. Mais voyez-vous, je m'en fiche et je m'en contrefiche. Je me fiche des convenances et je me fiche des principes français. En France, on ne parle pas d'argent. En France, on ne parle pas de son salaire. On ne parle pas de ce qu'on gagne. Je ne dis pas que l'on doit se dire les uns les autres quel est notre salaire. Sûrement pas. Mais en France, vous savez, ça semble pas convenable de parler d'argent. Eh bien, moi, je vous dis, je vous parle d'argent et je suis française et je m'en fiche. Parce que moi, je préfère parler des principes de Dieu et de ne pas être jugée par Dieu plutôt que de faire attention à ce que le monde, ou ce que les journaux, ou ce que le gouvernement, ou ce que qui que ce soit pensera. Je m'en fiche. La Bible dit que Isaac a semé, que Jacob a semé. En Genèse 26, la Bible dit qu'il y avait eu une famine qui est venue dans le pays d'Israël. Il y avait une terrible famine. Mais dans cette famine, Jacob a semé. Comment peut-on semer dans une famine? Lorsque quelqu'un n'a pas d'argent, ce que nous voulons leur dire, c'est « Fais attention, fais des économies, ne dépense pas ton argent !» Mais moi, je suis là pour vous dire par l'Esprit de Dieu, si vous êtes dans une famine, donnez à Dieu! Donnez à Dieu! Ne dépensez pas, ne gaspillez pas, mais donnez à Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous voulez sortir de cette famille. C'est pas le gouvernement, c'est pas les ascédiques qui vous en feront sortir. Il n'y a que Dieu. Alors il faut aller vers Dieu. Vous faites un sacrifice. Vous commencez à donner. Mais vous donnez pas qu'une seule fois. Hein. Vous donnez pas que quand le prophète Bernard arrive. Hein. Vous donnez pas que quand le prophète Bernard il parle, il enseigne pendant 2 heures. Lorsqu'il a tourné vos cœurs, il vous a fait rire, il vous a fait pleurer, chanter. Non, non, je vous parle pas de donner de cette façon-là. Je parle de donner de façon constante. Je parle de donner de façon régulière. Je parle d'ensemencer votre champ. Nous avons tous un champ. Voyez-vous, j'ai un champ. Et mon mari a un champ. Et mon champ n'est pas le champ de mon mari. J'ai un champ que je dois moi-même ensemencer. Vous comprenez? Je ne peux pas toute ma vie simplement dépendre de la prospérité de mon mari. Mon mari a semé toute sa vie. Certains d'entre certains peut-être se posent la question. Oh, mais pourquoi le pasteur, il a cette voiture? Oh, mais le pasteur, il donne plus que vous pouvez penser ou imaginer. Et le pasteur, il donne pas depuis hier. Il donne depuis qu'il est, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il a un champ, il est tellement bien ensemencé, son champ, que sa terre, elle a tellement été retournée. Et sa terre, elle est tellement grasse et productive que ça produit pour lui. Hein. Vous comprenez? Vous avez peut-être un champ, ça fait peut-être 1 an que vous l'ensemencez. Ça fait peut-être 6 mois que vous l'ensemencez. Ça fait peut-être 5 ans que vous l'ensemencez. Hein? Il faut commencer à penser à votre champ parce que vous êtes les seuls agriculteurs de votre champ. Vous êtes les seuls semeurs de votre champ. Vous comprenez? Lorsque le prophète Bernard a appelé les 40 personnes, je me suis avancée spirituellement. Je ne me suis pas avancée physiquement puisque j'étais sur l'estrade. Mais mon cœur s'est avancé. Et après, nous avons discuté avec mon mari. Et mon mari, qui s'était avancé lui-même, m'a dit... nous avons parlé, il a dit, je sème, donc c'est 1000 euros. J'ai dit, moi aussi, je sème 1000 euros. Il a dit, ok, gloire à Dieu. Il m'a dit, ok, je vais les donner. J'ai dit, non, mon chéri, tu vas pas les donner pour moi. C'est moi qui vais les donner. Et je vais pas les donner de notre compte en banque. Je vais pas le donner de notre argent à nous deux. Parce que je ne veux pas donner quelque chose au Seigneur qui ne me coûte pas. Il faut que ça sorte de ma poche, de ce que moi j'ai à moi, sans avoir besoin de te donner à toi, ou te demander à toi, ou de prendre de nous, mais quelque chose qui sorte de moi, parce que ça c'est mon champ. Ok, m'a-t-il dit, et donc, j'ai eu la joie et le privilège de semer mon offrande, comme d'autres personnes. Lorsque vous semez, vous récoltez. Le soir même, j'ai semé dimanche matin, le soir même, une personne est venue, qui n'est pas de cette église, est venue et m'a dit, j'ai un besoin dans ma vie. Et Dieu m'a dit de semer cela dans votre vie. Et la personne m'a donné 500 euros. Tout à fait inattendu. Tout à fait, je ne pouvais même pas y penser. Vous savez pas comment ça va venir. Vous savez pas quelle façon Dieu va pourvoir, mais vous savez que vous devez obéir à Dieu. La semaine suivante, et je rends grâce à toutes les personnes qui nous ont bénis pour notre anniversaire de mariage. Dieu a amené une provision de cette façon-là, et aussi d'autres façons. Tant et si bien qu'une semaine après, et ça, ce n'est que surnaturel, vous comprenez? C'est pas comme ça d'habitude, ok? Mais une semaine après, j'avais reçu plus que ce que j'avais semé. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut, si nous voulons avoir... Et maintenant, juste pour terminer l'histoire. Ce que j'ai reçu, je vais en donner la dîme. Et voyez-vous, je ne m'attends pas simplement à avoir 1000 euros en retour des 1000 euros que j'ai semés. Je m'attends à recevoir 10 000 euros de ce que j'ai semé. Je m'attends à avoir une multiplication par rapport à ce que j'ai semé. Mais voyez-vous, de ces 10 000 euros que je crois par la foi qui vont me revenir, je ne vais pas prendre 10 000 euros et les mettre dans ma poche. Je vais prendre une bonne et large et grasse partie de ces 10 000 euros que je vais ressemer pour avoir une autre moisson qui sera encore plus importante. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'ensemencer mon champ. Si vous jetez de la semence dans votre champ une fois de temps en temps, vous allez avoir une récolte et après quoi? Et après quoi? Vous devez constamment ensemencer votre champ. Il doit y avoir une récolte qui produit du grain que vous ressemez en terre. Qui produit du grain que vous ressemez en terre. Jusqu'à ce que, et continuellement, nous devons changer notre façon de donner si nous voulons avoir une récolte spirituelle. Je vais à regret m'arrêter là, parce que j'avais d'autres choses à vous partager. Mais le temps, le fait que vous ayez adoré le Seigneur à 11h45, ne me permet pas de terminer mon message. Ok, donc nous allons prier devant le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. À regret, je dis bien à regret, je ne termine pas mon message, mais je terminerai cet après-midi. Père Céleste, Seigneur, nous ne voulons absolument pas, non, 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 non. Nous ne voulons pas d'autre chose qu'un réveil personnel. Nous voulons que le feu de Dieu entre dans nos cœurs. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous voulons, Père, que tu nous réveilles pour ta gloire. Nous ne voulons pas rester assis. Nous ne voulons pas rester tranquilles. Nous ne voulons pas rester sages dans la présence de Dieu. Nous ne voulons pas ne pas mettre en pratique tes paroles et tes promesses. Seigneur, nous voulons mettre au défi notre vie, ta parole, tes promesses. Premièrement, pour apprendre, Seigneur, apprendre à prier différemment, à changer notre vie de prière, à changer notre relation. Nous ne sommes pas des mendiants ni des quémandeurs, nous sommes des adorateurs. Et nous devons apprendre à changer notre façon de donner. Parce que nous sommes des rois et des reines du royaume de Dieu. Nous voulons ensemencer notre champ. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Je libère l'Esprit de Dieu. Je libère un réveil personnel et spirituel dans chacune de ces personnes. Je prie que cette semaine, ces personnes soient réveillées par ton esprit. Qu'elles se lèvent et qu'elles aillent te louer et t'adorer. Seigneur, qu'elles changent dans leur vie. Je libère ces choses spirituellement maintenant. Levez vos mains vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dites Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois.